Les Mormons sont-ils une secte? Catherine Picard, qui est donc présidente actuelle de l'UNADFI, les associations de défense de la famille et de l'individu, a déclaré au sujet de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours: il s'agit d'un mouvement à déviance sectaire. C'est une communauté qui vit en vase clos, où la place de la femme est réduite à néant. L'enseignement religieux pour les enfants est tellement important qu'ils n'ont pas de temps à consacrer à autre chose. C'est un fonctionnement très limite. Donc une déclaration qui date de 2006. L'ADFI, dont elle est présidente, certifie dans son périodique, ils ont une petite revue qui s'appelle Bulle, Bulletin de liaison d'études des sectes. Être régulièrement contacté par des familles ou des personnes confrontées à des situations conflictuelles et douloureuses du fait de l'appartenance d'un de leurs proches à ce mouvement. Les reproches concernent les méthodes d'évangélisation, le détachement progressif du fidèle de son entourage, la place accordée aux femmes, le manque de liberté de penser et l'enseignement des enfants que l'association considère comme un endoctrinement. L'ADFI dénonce notamment l'organisation de cours d'anglais gratuits par les missionnaires. En France, ces cours sont donnés de façon discontinue depuis 1950 et qui peuvent servir d'appât pour les jeunes. Mais voilà, en l'absence de plaintes de fidèles, la mission interministérielle de lutte contre les sectes, ça c'est donc l'organisme officiel du gouvernement, qu'on appelle aujourd'hui non plus la MILS, mais la Miviludes. Mission interministérielle de lutte contre les sectes, en 2000, a estimé que l'Église des Mormons est un groupe religieux qui ne pose pas de problème en France. Elle a en outre estimé dans son rapport de 2001 que, compte tenu de la définition et du caractère sectaire d'une association par l'examen exclusif de son comportement au regard des droits de l'homme et de l'ordre public, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ne devrait pas être considérée comme secte. Donc ils disent, ils ne posent pas de problème au plan de l'ordre public. En revanche, le CCMM, Centre contre les manipulations mentales, relève le prosélytisme missionnaire constant, le mode de vie rigoriste, très familial, peu ouvert aux non-mormons, et sa considérable puissance médiatique, politique, universitaire, industrielle. Cependant, le CCMM considère que débarrasser de principes inacceptables comme la polygamie, ce qui est le cas maintenant, cette confession a évolué peu à peu en culte, c'est-à-dire un groupe, un mouvement. Il faut supprimer la note 11 qui est une erreur. Se débarrassant des aspects contestables de son idéologie et de ses pratiques, se transforme peu à peu en une confession socialement acceptable.
Parce qu'autrefois, ils acceptaient la polygamie.
Oui, on va y venir, effectivement. En 2009, l'Église des Mormons est devenue, en France, association cultuelle, loi 1905. Ça veut dire qu'elle est officiellement considérée comme une église en France, au même titre que l'Église catholique. Et donc les témoins de Jéhovah arrivent aussi à ce même niveau. Donc vous voyez, c'est récent, en 2009. Hein. Donc voilà, si vous voulez, à peu près ce qui se dit sur est-ce que c'est une secte, est-ce que c'est pas une secte. Personnellement, j'ajoute ceci, c'est que le point 10, qu'on verra un peu plus tard, concerne les relations du fondateur Joseph Smith avec la franc-maçonnerie. Et ça laisse penser que l'enseignement contenu dans les fondamentaux mormons a une origine polluée et malsaine. C'est le cas pour les témoins de Jéhovah, on l'avait vu avec Russell. C'est le cas avec les francs-maçons et c'est le cas avec la Scientologie. Les fondateurs sont tous des francs-maçons. Et puis on verra au point 9 comment il y a certaines conceptions mormones, mais qui sont totalement délirantes. Totalement délirantes. Donc dire que c'est une église et qu'elle ne fait pas de problème au niveau de l'ordre public, c'est une chose, mais examiner en profondeur la doctrine, et puis c'est autre chose. Voilà, alors si vous revenez maintenant au tout début de la causerie, donc on peut dire que c'est une église restaurationniste, Elle est née dans l'État de New York, aux États-Unis, en 1830. Et le siège mondial se trouve à Salt Lake City, dans l'Utah. Elle est la quatrième plus grande confession chrétienne des États-Unis, avec plus de 6 millions de membres. À échelle mondiale, elle revendique plus de 15 millions de membres, dont 58 000 en France. Vous voyez, c'est pas beaucoup. Elle a comme religion révélée, à l'instar du judaïsme, du christianisme et de l'islam. L'Église a tout d'abord été appelée Église du Christ, ses membres voyant en elle l'Église rétablie de Jésus-Christ. En 1830, elle est appelée Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, saint signifiant disciple. Dernier jour, expression utilisée dans le Nouveau Testament, faisant une distinction avec l'Église originelle. Finalement, en 1838, Joseph Smith lui donne son nom actuel, Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. C'est un peu compliqué. Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Le surnom Mormon, qui est toléré par les membres de l'Église, a pour origine le nom d'un personnage du livre de Mormon. On en reparlera tout à l'heure de ce livre. Dans ce livre, Mormon est un prophète, un chef militaire, un gardien d'Anna qui aurait vécu au IVe siècle après Jésus-Christ sur le continent américain. Il aurait hérité des vastes annales historiques et spirituelles de son peuple qui vivait dans les Amériques et y aurait ajouté l'histoire de sa propre vie. Il aurait compilé et abrégé les récits des prophètes précédents, gravé sur des plaques d'or, donnant ainsi son nom au livre, le livre des Mormons, et surtout à l'Église et à ses membres. Alors, quelle est la véracité de l'existence historique de ce Mormon? Je ne sais pas exactement. Il y en a qui disent que c'est pas avéré. Quand vous regardez le point 1, qu'est-ce que cette Église pense à propos de Jésus-Christ? Il suffit que vous regardiez pour vous apercevoir, c'est lisse, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que nous croyons nous-mêmes. Comme ça, apparemment, hein, sur Jésus-Christ, uniquement sur Jésus-Christ. Hein. Le premier-né du Père en esprit, le Fils unique du Père dans la chair, le Christ ou le Messie, loin, le Dieu de l'Ancien Testament, à savoir Jéhovah, préordonné à ce grand appel avant la création du monde. Il a, sous la direction du Père, créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Il est né de Marie à Bethléem. Il a mené une vie sans péché, accompli l'expiation parfaite des péchés de toute l'humanité en versant son sang, donnant sa vie sur la croix. Il a ressuscité des morts, garantissant ainsi la résurrection finale à toute l'humanité. Par son expiation et sa résurrection, ceux qui se repentent de leurs péchés, obéissent au commandement de Dieu, peuvent vivre éternellement avec lui et avec le Père. Il est l'être le plus important qui soit venu au monde, etc. etc. Vous voyez que ça ressemble quasiment comme deux gouttes d'eau à notre foi chrétienne, comme ça apparemment. Hein. Si vous regardez le dernier paragraphe, la croix chrétienne n'est pas utilisée comme symbole, les saints des derniers jours préférant l'idée du Christ ressuscité et vivant, ce qui, selon leur croyance, est sa réalité actuelle. Dans les églises ne se trouve pas de croix, de statue ni d'icône. Alors, ça se corse quand on aborde un petit peu l'histoire, c'est-à-dire que le Joseph Smith en question dit avoir eu une multitude de visions, d'apparitions, de toutes sortes de personnages. Par exemple, quand il avait 14 ans, en prière dans un bosquet près de chez lui, en 1820, pour savoir à quelle église il devait se joindre, deux personnages lui apparaissent, Dieu le Père, s'il vous plaît, et son fils Jésus-Christ. Il ajoute que Jésus-Christ lui déclara alors que la vraie Église avait été transformée et perdue par les hommes, et que s'il restait fidèle, il serait plus tard celui par qui elle serait rétablie. Et on a toujours le même refrain chez ces fondateurs-là, à savoir que c'est les sauveurs universels.
Oui, c'est pour ça qu'il parle plus haut de l'Église rétablie.
Voilà, ouais. C'est pour ça qu'on dit que c'est une Église restaurationniste, parce qu'elle considère que l'Église actuelle a perdu son... Voilà. Et qu'eux, ils viennent rétablir les choses. Deuxièmement, Joseph Smith affirme que 3 ans plus tard, en 1823, il reçoit la visite d'un ancien prophète nommé Moroni, qui lui révéla l'emplacement des Saintes Écritures, écrites en égyptien réformé sur des plaques métalliques, est aujourd'hui paru sous le titre de « Livre de Mormon ». Selon Joseph Smith, ses écrits étaient l'œuvre de prophètes d'origine juive ayant vécu sur le continent américain entre 600 ans avant Jésus-Christ et 420 après Jésus-Christ. Invérifiable.
Oui, mais c'est costaud.
Bon. Plus c'est gros, mieux ça passe. Troisièmement, Joseph Smith raconte également que son secrétaire, Olivier Cordery, et lui-même, travaillant en 1829 à la traduction du Livre de Mormon, il eurent le récit de la visite du Messie aux habitants de l'Amérique ancienne et ses enseignements sur le baptême. Selon leur récit, le 15 mai, ils allèrent prier sur les bords de la rivière de Susquehanna, près de la maison de Joseph à Ammoni. Ils racontent qu'un être céleste leur apparut, se présentant comme étant Jean-Baptiste, que ce personnage leur conféra la prêtrise d'Aaron,
direct,
et leur commanda de se baptiser et de s'ordonner mutuellement. Bien, commençons. Il raconte que plus tard dans le mois, les apôtres d'autrefois, Pierre, Jacques et Jean, leur apparurent aussi et leur conférèrent la prêtrise de Melchisédek et les ordonnèrent apôtres. Rien que ça, oui. Donc il y a la prêtrise d'Aaron d'une part, mais il y a la prêtrise de Melchisédek d'autre part. Le fait d'être apôtre, etc. Bon, enfin, on est évidemment en plein délire. Et quand on fera la conférence sur l'ufologie, on s'apercevra que dans ce cadre-là, c'est exactement pareil, quoi. Les personnes qui sont complètement accros de la chose prétendent avoir reçu des visites, des visions, etc. Enfin,
sur l'UFO, pardon.
L'ufologie, la science des ovnis.
Des
ovnis.
Ah oui, d'accord.
J'ai demandé, alors j'ai travaillé.
Ah oui, d'accord. Il y a une secte aussi, les Raéliens, je sais pas.
Oui, on parlera des Raéliens à cette occasion. Tout à fait. Mais c'est pas fini, comme dit la publicité, c'est pas fini. Le 27 mars 1836, Joseph Smith consacra le temple de Kirtland. Joseph Smith raconte qu'une semaine plus tard, le 3 avril 1836, Jésus-Christ lui apparut, à lui et à Olivier Cordery, dans le temple en déclarant « J'ai accepté cette maison et mon nom sera ici, et je me manifesterai avec miséricorde à mon peuple dans cette maison ». Il ajoute que trois messagers de l'époque de l'Ancien Testament, Moïse, Élias et Élie, apparurent également et rétablirent des clés et l'autorité de la prêtrise qui avait été perdue depuis longtemps sur la terre. Toujours selon Joseph Smith, l'autorité de rassembler Israël des extrémités de la terre et de sceller ensemble les familles pour le temps et pour l'éternité fut rétablie. Sceller ensemble les familles, on reviendra sur cette question. Donc, vous voyez, enfin, dans les débuts, la salade qu'on essaye de nous faire ingurgiter, la question d'une hérésie étant toujours, effectivement, soit la Bible plus autre chose, donc ici en l'occurrence le livre des Mormons, ou bien la Bible moins quelque chose. Il y a ainsi un courant qui est apparu, je ne sais plus à quel siècle, où. Le martionnisme, ça doit être à partir du deuxième siècle d'ailleurs, où Marcion disait il faut supprimer l'Ancien Testament de la Bible, purement et simplement. Voilà, donc la Bible moins. Alors, évidemment, il a été réfuté, mais c'est schématiquement, si vous voulez, ça fonctionne toujours comme ça, mais plutôt dans le sens plus, quoi. La Bible plus une autre révélation à côté. Hein. Donc, en fait, ce qui compte, c'est moins la Bible que la révélation qui prend une ampleur importante, quoi. Bon, on va peut-être pas lire tout ce qui concerne l'époque des pionniers. Regardez le mariage plural sur la droite. Le mariage plural, c'est un mariage de type polygynie, un homme avec plusieurs femmes. Il a été pratiqué par une partie des Mormons jusqu'en 1890. Donc début du mormonisme vers 1830. Et là jusqu'en 1890. Avec l'autorisation du président de l'Église, le mariage plural était célébré dans un temple de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Seules les femmes membres de l'Église et seuls les hommes détenteurs de la prêtrise de Melchisédek pouvaient accéder au mariage dans ces temples. Une façon de vivre la polygamie. Selon la doctrine mormone, le mariage plural rétablissait la pratique biblique de la pluralité des épouses, n'importe quoi. Il aurait été voulu par Dieu dans un temps donné pour accroître son peuple. Il faut bien trouver des explications. Ce n'est un secret pour personne que Joseph Smith a eu lui-même entre 30 et 40 femmes. Ça va? Ce que l'Église des Saints des Derniers Jours a été obligée de confirmer en 2014. C'est un scoop. Hein. Ah ben oui. Le pourcentage de mormons polygames a varié selon les endroits et les périodes. Après l'institutionnalisation de la pratique jusqu'à sa suspension, entre 20 et 40% des hommes entrèrent dans de tels mariages pluraux, tandis que le pourcentage de femmes polygames était de 10 à 15% plus élevé. Bon, aujourd'hui, c'est évidemment interdit, mais ça a marqué l'histoire de cette église, évidemment. Voilà, alors je passe la question des temps modernes, la question de l'implantation en France. Peut-être le dernier paragraphe avant le point 3. En octobre 2011, en France, donc, la municipalité du Chesnay, dans les Yvelines, a accordé un permis de construire pour l'édification d'un temple sur son territoire. Mais de nombreuses controverses ont surgi et un recours en justice a été déposé par les associations de riverains. En septembre 2014, le maire du Chesnay annonçait que tous les recours déposés contre le permis de construire du temple avaient été rejetés. Alors, est-ce qu'il a été construit actuellement?
Je ne sais pas.
Je ne sais pas.
Je sais pas du tout.
Faut téléphoner à M. le maire.
Alors, le point 3, ouvrages canoniques. Qu'est-ce qu'on appelle les ouvrages canoniques? C'est-à-dire les ouvrages reconnus par l'Église. En l'occurrence ici, l'Église des Saints des Derniers Jours. Hein, leur canon. Ce qu'ils intègrent dans le canon. Donc, ils disent qu'il y a la Bible. Deuxièmement, le livre de Mormon. Troisièmement, la doctrine et alliance. Quatrièmement, la perle de Grand Prix. Bon, la Bible, c'est clair. Je crois qu'il n'y touche pas. Mais le livre de Mormon, donc c'est un ouvrage publié en 1830, présenté par Joseph Smith comme la traduction des plaques trouvées, selon lui, dans la colline de Cumorah, dont l'endroit lui aurait été indiqué par l'ange Moroni. Le livre relaterait de 600 ans avant Jésus-Christ à 421 ans après Jésus-Christ, 1000 ans de l'histoire de Léhi, prophète d'origine juive, fuyant par la mer avec sa famille juste avant la destruction de Jérusalem et de sa descendance, les Néphites et les Lamanites, peuple de l'Amérique ancienne, avec pour point culminant la visite que Jésus-Christ aurait rendue au peuple Néphite 3 jours après sa crucifixion, s'il vous plaît. L'ouvrage tire son nom d'un des personnages, Mormon, qui aurait vécu de 311 à 385 après Jésus-Christ. Ce dernier aurait rassemblé les annales de ses prédécesseurs pour en faire une compilation religieuse et historique. Et c'est en référence à cette compilation que sont utilisés les termes mormon et mormonisme. Joseph Smith affirme avoir traduit ce document à l'aide de l'Urim et Thummim, c'est-à-dire au fond par divination. L'Urim et Thummim, c'est des instruments divinatoires, en fait. Donc il affirme avoir traduit... non pas par connaissance de l'Égyptien, des langues, mais par divination. Selon lui, il s'agissait d'instruments qui étaient en usage parmi les prophètes de l'Ancien Testament, se référant à Esdras 2, 63, et qui se trouvaient avec les plaques de métal. Dans la Bible hébraïque, l'Urim et le Thummim sont des éléments du pectoral porté par le grand prêtre d'Israël. Quand vous allez voir le Christ, la croix qui a été mise à la cathédrale du Mans, le Christ porte sur lui un pectoral qui était effectivement sur le vêtement du grand prêtre avec des pierres précieuses, etc. Et l'Urim et le Thummim. Bon. Ils sont généralement considérés comme des objets ayant trait à l'art de la divination, mais aucune description de leur aspect ne figure dans la Bible.
C'est pratique, ils avaient donné tout ce qu'il faut pour...
Les historiens rejettent les aspects surnaturels du récit de Joseph Smith et estiment que celui-ci a rédigé le livre lui-même, seul ou avec d'autres associés, plus instruits, en se servant vraisemblablement d'autres ouvrages. Il rejette la véracité historique du livre de Mormon, soulignant les incohérences anachroniques du récit. Troisièmement, doctrine et alliance. À la Bible et au livre de Mormon s'ajoutent les doctrines et alliances qui, selon la doctrine mormone, sont des écritures canoniques de composition moderne émanant de prophètes modernes pour l'établissement et le gouvernement de l'Église. Et enfin, quatrièmement, la perle de grand prix, qui est un choix de texte relatif à de nombreux aspects de la foi et de la doctrine de l'Église de Jésus-Christ des saints derniers jours. Ces textes sont le livre de Moïse, extrait de la version de la Genèse par Joseph Smith, le livre d'Abraham, présenté comme la traduction par Joseph Smith de papyrus égyptien qu'il obtint en 1835. Joseph Smith, Matthieu, extrait de l'évangile de Matthieu selon la version de la Bible par Joseph Smith. Joseph Smith, histoire, extrait de l'histoire de l'Église des saints des derniers jours, écrit en 1838. Les articles de foi de l'Église, 13 déclarations de foi et de doctrine. Bon. C'est donc assez compliqué. Espèce de labyrinthe et de dédale à ingurgiter. Concernant la théologie, c'est le point 4, on va lire surtout en bas de la page le plan de salut désigne le plan par lequel Dieu réalise l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Donc on va suivre un petit parcours, si vous voulez, des articles de foi des Mormons sur... la vie éternelle de l'homme. D'abord, la vie prémortelle avec Dieu. Pour les saints des derniers jours, tous les êtres humains ont choisi, dans la vie prémortelle, de venir sur la terre. Je ne sais pas si vous avez souvenir. Et sont ici-bas pour faire l'expérience de la vie dans un corps de chair et d'os et pour acquérir les vertus chrétiennes avant de retourner en présence de Dieu. Bon.
Je ne sais pas si on a choisi, hein. Nos parents
nous... Deuxièmement, quitter la présence de Dieu. La chute d'Adam et Ève était une étape nécessaire à la venue au monde des enfants d'esprit du Père. Sans l'étape de la chute, Adam et Ève n'auraient pas eu de postérité et n'auraient pas connu le bien et le mal, ni plus tard la vie éternelle. Mm-hmm. Façon de voir les choses. Troisièmement, communiquer avec Dieu par la prière, par les enseignements des prophètes, l'étude des Écritures sont des moyens de communiquer avec Dieu. Ensuite, Jésus-Christ. Le point central de la théologie mormone est Jésus-Christ, sa naissance, sa vie, son sacrifice expiatoire, sa résurrection. La création a permis la chute qui a nécessité l'expiation de Jésus-Christ. Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ est considéré comme l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, parce qu'il a mené une vie parfaite. Le Christ était qualifié pour offrir sa vie en rançon pour les péchés de l'humanité. Le sacrifice expiatoire permet la foi au Christ et en son salut. Bon, c'est un peu aride, hein, comme ça. Contracter des alliances avec Dieu. La foi, la repentance, le baptême par immersion pour la rémission des péchés, le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains et la persévérance dans l'obéissance au commandement jusqu'à la fin sont nécessaires au salut. La Sainte Cène ayant lieu chaque dimanche permet de renouveler les alliances contractées lors du baptême. Le perfectionnement des saints, le respect du jour de sabbat, la loi de chasteté, abstinence avant le mariage et fidélité pendant, le paiement de la dîme, le jeûne, le travail et la responsabilité personnelle, la parole de sagesse, s'abstenir de tabac, de boissons alcoolisées, de café, de thé et de drogue, l'œuvre missionnaire, l'obéissance au commandement permettent de se perfectionner dans les vertus chrétiennes, se perfectionner, s'auto-perfectionner. Mmh. La famille éternelle, atteindre l'exaltation, soit la continuité des vies, nécessite d'avoir préalablement reçu le sacrement du mariage éternel dans le temple. C'est ainsi que les couples saints des derniers jours sont mariés ou scellés pour l'éternité et que les enfants sont scellés à leurs parents. Alors, si vous voulez des plus amples développements, il faut aller chercher dans les méandres. L'œuvre du temple et la généalogie. Selon la doctrine, l'évangile est enseigné aux morts dans le monde des esprits, où, ayant leur libre arbitre, ils peuvent accepter ou non les sacrements accomplis pour eux dans cette vie. Ces sacrements, œuvre de salut pour les morts, sont accomplis par procuration dans les temples par les membres de l'Église considérés dignes de le faire. Les saints des derniers jours font des recherches généalogiques pour découvrir les noms et dates de naissance de leurs ancêtres, afin que les ordonnances salvatrices, baptême, confirmation, ordination, dotation, mariage, scellement aux parents et aux enfants, soient accomplies pour eux. On va revenir sur ce point assez curieux. Enfin, la vie après la mort. Le monde des esprits post-terrestres est l'endroit où attend l'esprit de l'homme entre la mort et la résurrection. Ça ressemble un petit peu au Sheol de l'Ancien Testament. Il comporte deux parties distinctes où est à séparer. Le paradis, où sont reçus ceux qui ont accepté l'évangile, et la prison des esprits, où sont reçus ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile, ou qui ne l'ont pas accepté pendant qu'ils étaient sur la terre, et qui n'ont pas eu l'occasion de l'entendre. L'évangile est enseigné dans la prison des esprits à ceux qui acceptent le sacrement du baptême célébré en leur faveur dans les temples. Donc à ce moment-là, ils vont dans le paradis. Ces sacrements, œuvres de salut pour les morts, sont accomplis par procuration. On va y revenir. La résurrection universelle, résurrection de chaque être humain avant qu'il ne soit emmené devant Dieu pour le jugement. Le jugement dernier où il sera tenu compte de la globalité de la personne jugée, et puis l'attribution d'un degré de gloire. Le jugement est attribué à chacun selon ses choix dans la mortalité et dans l'au-delà, l'un des trois degrés de gloire céleste, pardon, téleste, terrestre ou céleste.
Téleste,
j'ai pas approfondi. La population de l'Église, bon, on en a déjà parlé tout à l'heure, je passe à ce point 5. Le point 6, catholiques et mormons. Important, le 5 juin 2001, le cardinal Joseph Ratzinger, le futur Benoît XVI, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, a répondu négativement à une question concernant la validité du baptême conféré dans la communauté des mormons. Baptême, hein. Donc la question posée était celle-ci. Le baptême conféré dans la communauté appelée l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, généralement connu sous le nom, est-il valide? Réponse, non. Vous savez, la Congrégation pour la doctrine de la foi se livre à ce petit jeu de temps en temps, comme ça, de donner des réponses circonstanciées à des questions assez particulières qu'on lui pose. Maintenant, le cardinal Francis George, qui a été président de la conférence épiscopale américaine, qui est décédé maintenant, en 2010, reçu dans une université, déclarait « La leçon qu'enseigne l'histoire américaine est que les églises et autres corps religieux prospèrent dans une nation et un ordre social qui respectent la liberté religieuse et reconnaissent que le gouvernement civil ne doit jamais s'interposer entre les consciences et les pratiques religieuses de ses concitoyens et le Dieu Tout-Puissant. Je suis personnellement reconnaissant qu'après avoir vécu essentiellement séparé pendant 180 ans, catholique et saint des derniers jours aient commencé à se considérer comme des partenaires dignes de confiance dans la défense des principes moraux partagés et dans la promotion du bien commun de notre pays bien-aimé. » Donc il y a une, dans certains cas une entraide, communion qui n'est pas de l'ordre doctrinal, mais qui est de l'ordre de participation à des œuvres humanitaires ou des choses, on dirait la COP 21, des choses comme ça. Enfin, voilà. Ça ne mange pas de pain. Plus généralement, particulièrement aux États-Unis, les relations entre les deux confessions sont une coopération entre le Secours catholique et le Centre humanitaire de l'Église des Mormons, dans l'assistance aux victimes de famine, désastres naturels. Et ces dernières années, l'Église des Mormons a parfois rejoint les représentants catholiques dans des initiatives communes, telles que l'opposition au mariage de même sexe. En 2010, Russell Ballard, apôtre de l'Église des Mormons en visite à Rome, a rencontré le cardinal Levada, qui a succédé à Joseph Ratzinger, le cardinal Jean-Louis Torrent, qui est chargé de la relation avec les autres religions, dialogue interreligieux. Donc il y a des contacts, si vous voulez, hein. Il y a des contacts, mais la validité du baptême mormon est refusée, contrairement à la validité du baptême protestant, du baptême orthodoxe, etc. Faut le savoir. Les Mormons, une secte, donc on a déjà vu ça tout à l'heure, et on arrive maintenant sur le point 8, qui est la question du baptême pour les morts. C'est quand même une affaire assez spéciale. Et cette pratique qui est donc assez centrale dans l'Église des Saints des Derniers Jours s'appuie sur un seul verset de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 29. Donc j'ai élargi au contexte les versets 24 à 30. Puis ce sera la fin lorsque Jésus remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait placé tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi détruit, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dira « Tout est soumis désormais », c'est évidemment à l'exclusion de celui qui lui a soumis toute chose. C'est un peu obscur. Donc là, il s'agit du Père. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, afin que Dieu soit tout en tous. Donc voilà, la vision de Paul, c'est que, au fond, à la fin des temps, tout sera récapitulé dans le Christ, et le Christ se soumettra tout cela au Père. L'humanité sera vraiment aura fait totalement retour à Dieu. Bon. Et la suite du texte, le verset 29, « S'il en était autrement, que gagneraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi donc se fait-on baptiser pour eux ? » écrit Paul. « Et nous-mêmes, pourquoi à toute heure nous exposer au péril ? Chaque jour, je suis à la mort, aussi vrai, frère, que vous êtes pour moi un titre de gloire dans le Christ Jésus notre Seigneur. » Donc il y a ce verset 29 que j'ai mis en caractère gras, qui évidemment pose question, de quoi s'agit-il? Saint Paul semble dire que à l'époque à Corinthe, il y a des chrétiens qui se font baptiser pour les morts.
Ah ouais.
Et il dit, si les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se faire baptiser pour eux? Donc ce baptême est en vue de la résurrection. Comme le nôtre aussi, de toute façon. Mais voilà, en vue de procurer la résurrection, donc à des défunts. Alors, qu'est-ce qui a été dit sur ce verset? Puisque c'est un seul verset, hein, c'est tout. Il n'y a rien, il n'y a aucune autre trace dans l'Écriture sur cette question. Qu'est-ce qui a été dit sur ce verset? Donc, j'ai fait un petit suivi, là, avec les auteurs anciens, les auteurs modernes, et puis les saints des derniers jours. C'est un peu long, mais Comme c'est un détail important pour eux, et qu'il vaut mieux quand même avoir les choses, les idées un petit peu plus claires. Donc en ce qui concerne les auteurs anciens, certains auteurs suggèrent que le baptême pour les morts a été pratiqué par certains groupes des premiers chrétiens, et que cette pratique s'est poursuivie au moins jusqu'à la fin du IVe siècle. Ambrose Ester, un auteur latin qui vivait sous le pontificat du pape Damas Ier, donc 4e siècle, à propos de ce verset de Paul, écrit ceci: « Paul souhaite montrer combien la résurrection des morts est sûre et ferme, en donnant l'exemple de ceux qui étaient si certains de la future résurrection qu'ils étaient baptisés pour ceux qui étaient morts avant d'avoir pu être baptisés. Craignant que quiconque n'avait pas été baptisé ne ressusciterait pas du tout, ou ressusciterait pour être damné, une personne vivante était baptisée au nom du défunt. » Donc cette position d'Ambrosie Ester comme explication du verset de Paul, hein, est adoptée par de nombreux auteurs anciens, jusqu'au théologien saint Thomas d'Aquin, donc au XIIIe siècle. Saint Jean Chrysostome, IVe, début du Ve. Saint Jean Chrysostome explique que chez les Marcionites, donc ces chrétiens qui disaient il faut expurger la Bible de tout l'Ancien Testament, chez les Marcionites, quand un catéchumène mourait, un catéchumène, quelqu'un qui n'était pas baptisé, mais qui se dirigeait vers le baptême, hein, quand il mourait, une personne vivante s'étant cachée sous le lit du défunt, il s'approchait du mort et lui parlait, lui demandant s'il voulait recevoir le baptême. Comme il ne répond pas, celui qui est caché en dessous répond pour lui, disant qu'il veut être baptisé. Ainsi, il le baptise à la place de celui qui est mort, comme s'il jouait sur une scène. Donc il parle des marcionites, hein, donc au IVe siècle. Si, indépendamment des morts, nous pouvons décider ou changer leur destinée éternelle, alors le fait qu'ils soient damnés ou sauvés ne peut plus être attribué à leur faute ou à leur mérite, mais au nôtre. Ce serait notre responsabilité. Donc, Saint Jean Chrysostome dit, oui, mais tout ça c'est bien beau, mais alors si on... on peut nous-mêmes décider du sort éternel du voisin à côté, où est sa liberté, enfin, du catéchumène, où est sa liberté, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, Saint Jean Chrysostome se démarque de la position d'Ambrosiaster, qui était plutôt de dire il y a là une foi vive en la résurrection et un désir de faire participer tous à la résurrection. Et voilà. Et Jean Chrysostome dit oui, mais enfin, attention, ça veut dire qu'on est en train de marcher sur la responsabilité personnelle. Épiphane de Salamine, un évêque et théologien du IVe siècle, disait toujours à propos des Marcionites, une église à laquelle il était opposé, dans ce pays, je veux dire l'Asie, ou même en Galatie, leur école était très florissante et une tradition nous est parvenue à leur sujet. Quand un des leurs mourait sans baptême, ils avaient coutume d'en baptiser d'autres en son nom, de peur qu'à la résurrection, il ne fût puni pour n'avoir pas été baptisé. Donc on a donc des traces de cette pratique au IVe siècle, hein, mais dans une petite frange qui s'appelait les Marcionites. Saint Philastre de Brescia, toujours au IVe siècle, dit des cataphrygiens. Cataphrygiens, aussi une petite secte. Ces gens baptisent les morts. Saint Grégoire de Nazianze, toujours IVe siècle, théologien et docteur de l'Église, reproche à un vieil homme de remettre à plus tard son baptême, lui demandant avec ironie, « Attends-tu toi aussi d'être baptisé après que tu sois mort ?» Le quatrième canon du synode d'Hippone, le lieu où était Saint Augustin, qui a eu lieu en 393, déclare « L'Eucharistie ne doit pas être accordée à des cadavres, ni le baptême qui leur est conféré. » La décision, donc, pas question de baptiser les morts. Donc, vous voyez, au IVe siècle, il y a quand même... Là, on est dans un synode qui doit être plus que national. En tout cas, régional, certainement. La décision fut confirmée 4 ans plus tard dans le 6e canon du 3e... ça doit être Concile de Carthage, pardon, il y a une erreur là. Le troisième concile de Carthage, le concile de Carthage tenu en 397, confirme le synode d'Hippone et condamne toute administration du baptême pour les morts. Le sixième canon du concile déclare « Prenez garde que l'ignorance des frères ne les conduise à croire que les morts peuvent être baptisés. » Donc voilà, jusqu'au IVe siècle, on a des traces de la pratique, mais on a aussi des traces de prise de position officielle pour dire non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible de considérer que ce soit valable. Enfin, on ne donne pas l'Eucharistie à un cadavre, on ne donne pas le baptême non plus. Et par derrière, pour les plus anciens d'entre nous, il y a la question de l'extrême onction. Lorsqu'il y a peut-être 50 ans ou un peu plus, on appelait quelquefois un prêtre pour donner l'extrême onction à quelqu'un qui était déjà décédé depuis quelques heures. Voilà. Ça m'est arrivé quand j'étais jeune prêtre, par exemple, d'être appelé dans des circonstances un peu similaires, quelquefois. Et en 1900, après le Concile Vatican II, quand on a publié les rituels de chacun des sacrements, rituels qui avaient été revisités, rénovés, donc le rituel du baptême, le rituel de la confirmation, le rituel du sacrement de l'onction des malades. Voilà. Non plus de l'extrême onction, mais du sacrement de l'onction des malades, on y dit bien que il est bon de recevoir ce sacrement de son vivant, voire même au début du troisième âge, enfin, en cas d'opération grave, de santé défaillante, enfin, voilà. Donc on resitue ce sacrement comme étant non plus donné au moment de la mort, mais donné pour la santé pendant la vie de la personne.
Pour avoir toute sa connaissance.
Oui, non, enfin, peut-être pas. Ça m'est arrivé de donner le sacrement quand la famille, quand la personne est encore est inconsciente, mais est toujours vivante et que la famille affirme qu'elle était pratiquante, chrétienne, voilà, enfin, donc il n'y a pas de raison de lui refuser parce qu'elle est inconsciente. Oui. Si consciemment elle l'aurait demandé, alors c'est peut-être dommage qu'on ne l'ait pas demandé plus tôt, ça c'est une autre question. Mais vous voyez, la position ici qui s'affine.
Ça pose la question d'être baptisé pour être sauvé.
D'être baptisé
D'être baptisé pour être sauvé. C'est la question qui se posait. Si on n'est pas baptisé, on ne peut pas être sauvé.
Alors, c'est une oui, mais...
Parce que ça fait penser à cette question-là, mais c'est faux. C'est une fausse question, parce que tous ceux qui sont...
Bien sûr.
Qui n'ont pas connu le Christ, ils sont sauvés par le Christ. Qui est...
Le Concile a montré comment... Enfin, la théologie... Le Concile affirme que l'incarnation du Christ dans ce monde retentit sur tout homme.
Ouais.
Voilà. Bon, alors ensuite, il y a effectivement la demande du baptême ou pas, il y a le contexte culturel et religieux dans lequel on est, il y a possibilité ou non de connaître le Christ. Tout ça joue évidemment, mais on n'en est plus à dire hors de l'Église, pas de salut, quoi, heureusement. Les auteurs modernes, un Américain comme Jerome Murphy O'Connor, qui est décédé récemment, un Dominicain, qui vraiment connaissait Saint Paul comme sa poche, professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, depuis 1967, il a beaucoup écrit sur les Saint Paul, il disait ceci, les commentaires les plus récents de 1 Corinthiens 15-29 s'accordent tous à penser que ce verset parle d'une coutume à Corinthe, par laquelle les membres de la communauté étaient baptisés en faveur de parents et d'amis chers qui n'avaient pas reçu le sacrement. Une telle unanimité reflète un consensus dont la base, déclare-t-on, est le texte lui-même. On nous dit qu'une lecture impartiale du verset suggère immédiatement et naturellement une telle pratique. Les autres opinions n'auraient été proposées qu'à cause du fait que les érudits n'auraient pu se résoudre à admettre l'existence d'une coutume si bizarre. Voilà, alors ensuite, vous avez les orthodoxes, Sergueï Atonenko, qui déclare que le baptême par procuration des morts a ses racines dans le christianisme antique. Ceux qui sont avancés dans l'étude de la religion peuvent conclure que le baptême par procuration a existé dans l'histoire de l'Église chrétienne. Et il cite 1 Corinthiens 15, 29, évidemment. Selon Antonenko, il est évident que le baptême pour les morts a été pratiqué dans certaines des premières communautés chrétiennes jusqu'à ce qu'il soit interdit par décret du Concile de Carthage. La tradition des baptêmes posthumes a continué à exister dans des périodes postérieures. On la connaissait aussi dans la Russie ancienne. En 1044, Yaroslav, surnommé le Sage, grand-duc pieux de Kiev, capitale de la République actuelle d'Ukraine, a introduit physiquement dans l'église deux de ses oncles, Oleg et Yaropolk, qui étaient morts bien avant cela et étaient officiellement païens, non baptisés au moment de leur décès. Dans ce cas-ci, on peut difficilement parler de baptême par procuration. Les chroniques disent que les os des ducs furent exhumés des tombeaux, baptisés, puis enterrés dans la cathédrale de la Sainte Vierge des Dîmes. Au sujet d'Oleg et de Yaropolk, on sait qu'ils ont été élevés et éduqués par leur grand-mère, la grande-duchesse Olga, et qu'ils croyaient au Christ, et que s'ils n'ont pas été baptisés, c'est à cause de circonstances défavorables, tués dans des querelles intestines. Yaroslav le Sage était convaincu que c'était son devoir d'aider ses oncles décédés prématurément à mener à bonne fin leur choix chrétien. Le baptême des morts fut accompli officiellement dans l'église construite par Saint Vladimir. Des baptêmes pour les morts sont pratiqués par procuration dans des temples par les membres de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Donc, selon la doctrine des Mormons, l'évangile est enseigné aux morts dans le monde des esprits, où ils ont l'occasion d'accepter librement les sacrements accomplis pour eux dans cette vie. Ces sacrements ne prennent effet qu'après l'acceptation des destinataires. Donc les membres de la famille se font baptiser, mais les défunts en question restent libres d'accepter ou de refuser.
Tout la généalogie chez les Mormons.
Les saints des derniers jours font des recherches généalogiques pour découvrir les noms et les dates de naissance de leurs ancêtres afin que ce qu'ils appellent les ordonnances salvatrices, baptême, confirmation, etc., soient accomplies pour eux. Seul un adulte de sexe masculin, détenteur de la prêtrise de Melchisédek, ayant reçu l'ordonnance de la dotation, peut baptiser en faveur des morts. Dans la pratique du baptême pour les morts, une personne vivante est baptisée par immersion en lieu et place d'une personne décédée du même sexe. La personne qui représente le défunt est appelée par son nom, puis après l'énoncé du nom complet de la personne décédée qu'elle représente, est baptisée par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Selon la doctrine mormone, le défunt qui est vivant en esprit est libre d'accepter ou de refuser le baptême accompli en sa faveur. Les saints des derniers jours considèrent que leur première obligation est d'accomplir par procuration les ordonnances du temple pour les membres décédés de leur famille. Des recherches généalogiques peuvent être faites sur les lignées par le sang, par adoption et par scellement, également pour les noms de personnes qui ont une relation familiale probable. Sont exclus les noms des personnes non apparentées, notamment les noms de célébrités ou celles collectées dans le cadre de projets d'extraction non approuvés, par exemple des victimes juives de l'Holocauste. Bien que l'Église des saints des derniers jours considère que c'est un grand service que d'accomplir les sacrements par procuration pour les défunts, certains non-mormons se sont offensés de cette pratique. Sensibles à la question du baptême par procuration pour les non-mormons qui n'ont pas de lien de parenté avec les membres de l'Église, l'Église, au cours de ces dernières années, a publié des instructions limitant l'accomplissement des sacrements du Temple aux ancêtres directs des membres de l'Église. Oui, il y en a qui sont pleins qu'on ait baptisé des membres de leur famille sans qu'ils soient mormons. Enfin, voilà. Et donc maintenant, ils ont limité ça uniquement à la famille des membres actuels, quoi, si je comprends bien. Donc en 2008, une directive de la Congrégation pour le clergé a été envoyée au diocèse catholique pour empêcher l'Église des Mormons de microfilmer et de numériser les informations contenues dans le registre de sacrements catholiques que nous avons ici dans les paroisses 2008. Ouais. De sorte que les personnes dont les noms y figurent ne reçoivent pas le baptême mormon. Le Vatican avait déjà déclaré en 2001 que le baptême mormon était non valide. Donc voilà, si vous voyez un peu plus clair sur cette question, du moins, enfin, vous avez les éléments dans le dossier pour mieux comprendre, quoi. Alors, faudra peut-être, regarder le point 9, la loi mormone sur la progression éternelle. Ça vaut son pesant d'or. Ça vaut son pesant d'or. L'erreur doctrinale la plus grave de l'enseignement mormon peut être résumée dans la position de base concernant Dieu et l'homme, contenue sous l'appellation de progression éternelle. Cet enseignement est au centre de la foi mormone. Selon lui, Dieu fut un jour un simple être humain, et l'homme deviendra un jour Dieu. Et voici la fable délirante concoctée en milieu mormon. Elohim, le Père de Jésus, serait né sur une autre planète, de la même façon que nous avons été mis au monde par nos parents. Bon. Elohim aurait acquis une grande maturité grâce à son obéissance aux lois et aux ordonnances du Dieu qui régentait cette planète, c'est-à-dire son Père qui lui-même, dans le passé, fut un homme soumis à un autre Dieu, et ainsi de suite.
Ça fout.
Et là, il mourut. C'est un ancien moment.
Ouais, j'ai jamais su ça. J'ai jamais su.
Élohim mourut, fut ressuscité et jugé par son Dieu, qui le trouva digne d'être élevé à la divinité. Il lui fut donné beaucoup d'épouses, qui l'accompagnèrent sur une planète dénommée Kolob. Il y prospéra, il y engendra des millions d'enfants, démunis de corps physiques, s'il vous plaît. Cette doctrine nous apprend que toute la race humaine fut envoyée de Kolob sur cette terre, dotée de corps physiques, afin d'être testée comme Elohim. Elohim eut pour tâche de préparer la terre, afin qu'elle soit occupée par les hommes. Le conseil des dieux s'est alors rassemblé, afin de trouver de meilleurs plans de travail pour cette entreprise. Elohim demanda à ses deux fils aînés, Jéhovah, Jésus et Lucifer, de préparer chacun un plan. Après délibération, le conseil opta pour le plan de Jésus, et il fut élevé à la position divine. Satan n'accepta pas cette décision, et un tiers des enfants d'Élohim fut entraîné dans sa révolte. Un autre tiers resta fidèle à Élohim et à la décision du Grand Conseil. Un autre tiers, composé d'irrésolus, resta obéissant, mais ne voulut pas s'engager dans la bataille. Le parti de Jésus remporta la victoire, et Lucifer et ses adeptes furent chassés de Kolob, et ils arrivèrent sur Terre.
Il faudrait faire une BD avec ça.
Absolument. Mais je me demande s'il n'y en a pas une, d'ailleurs.
C'est pire que de Corbeau Père Noël.
Oui, oui, oui. Enfin, voilà, enfin, bon. Alors, vous trouvez exactement ce même genre de fable chez les Raéliens.
Ah oui, oui, c'est ça.
Raël étant... Raélien. Raël, c'est un type qui a mon âge, qui a fondé une secte et se dit engendré sur une autre planète, enfin voilà. Si bien que sa mère est obligée de publier un livre disant « Non, mon fils n'est pas un extraterrestre.
» Il a bien un père.
Mais c'est, vous savez, c'est celui qui s'est agité à un certain moment sur le clonage en disant que...
Ils avaient raconté qu'ils avaient cloné une fille.
Ah, absolument.
C'est eux, et du coup, ils ont fait énormément de pubs.
Et puis après, ils ont dit que c'était pas moi.
Ouais. On en parlera quand on parle de la scientologie, je crois. Enfin, voilà, bon. Mais là, on est dans des délires, quoi. Dans des délires qu'on va faire ingurgiter à des gens au fur et à mesure où ils s'élèvent dans les grades de l'Église, quoi. Ah ben oui, oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé extraordinaire?
Aucun homme ou femme dans cette dispensation n'entrera jamais dans le royaume céleste de Dieu sans le consentement de Joseph Smith. Chaque homme et femme doit avoir un certificat de Joseph Smith comme passeport afin d'entrer là où se trouve Dieu et le Christ.
Vous savez, Joseph Smith, dans chez Momo, devient quasiment aussi important que le Christ, quoi. Parce que tout passe par Joseph Smith, ça, quoi.
Bien sûr.
Si on passe, on n'a pas accès à la vérité si on ne passe pas par Joseph Smith.
Plus c'est gros, mieux ça marche. Et à la fin de cette partie-là, on comprend qu'on puisse lire sous la plume d'un mormon. Les mormons ne rampent pas devant Dieu, débitant leur indignité en pleurant grâce. Ce ne sont pas des esclaves, mais des hommes faits à l'image de Dieu. Ils se tiennent debout, fièrement, levant la tête et tendant leurs mains pour serrer celle de Dieu afin de le saluer. Ouais. Bon. Alors, comme je vous disais, on s'aperçoit toujours que les fondateurs de ce type d'église sont liés à la franc-maçonnerie. Quand Joseph Smith créa l'église, la franc-maçonnerie existait déjà. En 1827, son frère Hiram rejoindra les francs-maçons, ainsi que beaucoup des premiers mormons. En 1838, les mormons formèrent une bande secrète unie par des serments de mort secrets pour défendre les mormons de leurs ennemis et pour faire sortir les apostats du milieu d'eux. En 1842, Joseph Smith est devenu membre de la loge franc-maçonnique de Nauvoo, en Illinois, et le lendemain, il est élevé au 32e degré de la franc-maçonnerie, l'avant-dernier. Il écrit « Le soir, j'ai reçu le premier degré dans la franc-maçonnerie à la loge de Nauvoo, assemblée dans mon bureau. J'étais à la loge maçonnique et je fus élevé au degré suprême. » La compromission des hauts degrés de la franc-maçonnerie avec le satanisme est connue. Albert Pike, grand pontife de la franc-maçonnerie universelle, franc-maçon du 33e degré, grand prêtre de l'Église satanique, a déclaré le 14 juillet 1889, en France, s'adressant au haut degré de la maçonnerie de rite paladique, « À toi, souverain grand instructeur général, nous disons ceci, que tu peux répéter aux frères des 32e, 31e et 30e degrés, la religion maçonnique devrait être maintenue par nous tous, initiés de haut degré dans la pureté de la doctrine luciférienne. »
Ah oui, d'accord.
Bah oui. Après quelques mois, les francs-maçons d'autres loges d'Illinois rejetèrent la loge de la ville appelée Nauvoo parce qu'elle introduisait beaucoup de changements dans les cérémonies. Pour se défendre contre des accusations disant qu'il avait copié les cérémonies de la franc-maçonnerie pour les mettre dans les cérémonies secrètes du temple mormon, Joseph Smith déclara que la franc-maçonnerie était une apostasie de la religion vraie et qu'il l'avait restaurée par révélation de Dieu. Cependant, au moment de leur mort, son frère et lui étaient membres à part entière de la franc-maçonnerie. Quand ils furent attaqués en prison par la foule, Joseph appela ses frères francs-maçons à l'aide. Les serments de mort de la même nature que ceux de la franc-maçonnerie ont continué dans les cérémonies des temples mormons jusqu'en 1990. Après cette date, à cause des protestations de beaucoup d'organisations chrétiennes, les mormons abandonnèrent cette pratique. Les preuves de leurs liens historiques avec la franc-maçonnerie restent dans les symboles du compas, du carré, de la règle sur les vêtements intérieurs sacrés que porte tout missionnaire mormon. Les vêtements intérieurs, les sous-vêtements, je pense. Hein, que porte tout missionnaire mormon. Vous savez, ils sont généralement en chemise blanche, cravate et costume strict. Il faudrait voir par en dessous. Cependant, en regardant plus près, les symboles sataniques et mythologiques pullulent dans le temple des Mormons à Salt Lake City, aux États-Unis. Bernard François, dont il est question maintenant, affirme « Le rituel secret du temple pour conférer des ordonnances salvatrices aux vivants et aux morts est en fait pris à la franc-maçonnerie de rite écossais et adapté aux Mormons. Les grades d'apprenti, compagnon, maître sont conférés en une seule séance. La franc-maçonnerie officielle n'admet pas cette pratique. » Donc on en arrive, pour terminer, à ceci, les pérégrinations d'un mormon sartois, Bernard François, qui est mort en 1997, a vécu au Mans, qui était ajusteur et serrurier SNCF, agent technique. Il a donné sa démission des mormons en août 1942, entré au Maine Libre en 1946 comme mécanicien linotypiste, puis après maladie à l'imprimerie Villers en novembre 1955. Il a terminé sa carrière à l'imprimerie Barrier en 1983. À 20 ans, il connut le désert de la foi. À 40 ans, il s'éloignait de la foi catholique pour l'embrasser à nouveau et définitivement 20 ans après. Deux décennies apparemment loin de l'Église, loisirs peu nombreux, occupés en grande partie à la recherche généalogique, pas moins de 100 000 km parcourus à mobylette. Une moisson abondante de noms, ses ancêtres et parents, ceux de son épouse, ceux de coreligionnaires et d'amis. Bienveillante, son épouse s'occupait de sa petite famille, tandis qu'il partait à la recherche de la grande famille humaine. Ses enfants se souviennent de ses retours triomphants des archives départementales, et Bernard François de parler avec enthousiasme de Martin François et de Mathurine Pingot, décédés en 1651-1678, comme s'ils venaient de leur serrer la main. L'étude du livre d'Isaïe en hébreu et des hiéroglyphes le ramèneront à sa propre surprise à l'Église catholique à Noël 1980. Sa vie a été marquée par l'étude, la méditation, la prière, celle du chapelet, le service. Il aimait les belles célébrations eucharistiques, fréquentait l'église Saint-Martin de Pontlieu. Il appréciait l'équipe liturgique dont il faisait partie et écoutait attentivement l'homélie des prêtres successifs dont la profondeur ne lui échappait pas. Donc il a fait un énorme travail que vous avez ici et qui est, que j'ai mis en ligne sur le site PNCDS 72.
Oui,
tout ça. Sur le livre d'Abraham, dont il est question à un moment, si vous vous souvenez, dans le canon des écritures mormones.
Les hiéroglyphes à la fin qu'il a étudié.
Et puis le livre d'Isaïe. pour montrer que c'est totalement
c'est une falsification.
Falsifié. Alors son travail n'est pas connu.
Hein, oui. Je pense pas. Ah non, non. Oui.
Son fils est en mauvaise santé actuellement. Absolument. Il habite du côté de Marolles-les-Braux.
Oui.
Ouais.
Et voilà, c'est Bernard François.
Donc, s'il y a des Mormons qui cherchent, on a mis en ligne, ça a été numérisé par je ne sais pas qui.
C'est Jean-Emmanuel, oui.
C'est lui
avec ses fils, ils ont fait ça.
Ils ont numérisé, et puis donc on a rassemblé le tout en un zip qu'on a mis en téléchargement sur le site.
C'est lui, ce monsieur.
C'est lui, oui. Bernard François, oui. Je l'ai connu personnellement, hein, puisque j'étais Mormon, moi aussi.
Alors, tu nous racontes un peu ton histoire.
Un petit peu, oui, je vais essayer d'être bref. Parce que c'est une expérience d'une secte, en fait, pour moi. Alors, évidemment, je dirais, je suis rentré dans une secte, c'est peut-être pas par hasard, c'est des conditions de personne, de psychologie, etc. Et j'étais pas du tout croyant. C'est-à-dire, je croyais pas. Donc, on est complètement candide et on a même de recevoir plein de choses, quoi. Je suis rentré dans cette secte. Et alors, comment je vais vous dire, justement, on a parlé tout à l'heure, il y avait les livres canoniques, et en même temps, il y a la Bible. Bien. Alors, c'est en lisant la Bible que j'ai rencontré, que j'ai reçu la grâce, quoi, la parole de Dieu. Au début, j'ai reçu la parole de Dieu en la lisant, dans la Bible, et il y avait confusion entre ce que disaient les Mormons et la Bible, puisque je ressentais l'esprit, c'était vrai ce que disaient les Mormons, puisque c'était dans l'église morbonne que j'ai lu la Bible. Vous voyez la confusion? Bon, puis après, il y a une branche, c'est pas une paroisse, ça s'appelle une branche, et j'ai vite fait partie des conseillers de la branche, avec une équipe, et dans cette équipe, il y avait Bernard François, qui était secrétaire. Bien, alors évidemment, on se côtoyait, on était amis. Il y a beaucoup, vous savez, dans une secte, on n'est pas très nombreux. Donc c'est une famille. Donc il y a toute une chaleur humaine de soutien, de partage. C'est beaucoup plus facile, quoi. Donc je côtoyais tous les membres, et en particulier Bernard François. Bon, Bernard François, c'était quand même... son parcours est très particulier, étonnant. Pas plus, enfin, tout parcours est étonnant. Le parcours de Bernard François, c'était un catholique convaincu, quoi, qui était de spiritualité franciscaine, et qui attendait quelque chose de nouveau dans l'Église. Et quand il a rencontré les missionnaires mormons, il croyait que c'était la nouveauté de l'Église, et il a adhéré aux mormons, en toute bonne foi. Bien, mais quand lui me parlait, il avait une autre spiritualité que la spiritualité mormone, voyez-vous, ça me parlait aussi. Mais il était comme il était un mormon convaincu, tout ça c'était mélangé, c'est très flou en fait. Alors donc on avançait ensemble. Et puis, si vous voulez, et puis à un moment donné, Bernard, alors vous savez, on vit des commandements, enfin tout est commandement chez les mormons. Bon, il y avait, vous savez, vous avez entendu parler, c'est assez marrant parce que on est très puritain chez les mormons, vous voyez, et c'est une belle morale, quoi. Alors, donc, évidemment, on ne boit pas de vin, pas de café, etc. Donc, bah oui. Et puis, il y avait le commandement, parce que l'histoire de l'argent, il y a toujours l'histoire de l'argent dans une secte. Le commandement, c'est de payer la dîme. La dîme, c'est 10% de son salaire. Donc, ça compte. Donc, les mormons, effectivement, par ce moyen, bon, voilà, pour s'instituer comme ça. Alors, moi, je ne connaissais pas l'histoire, vraiment, de Joseph Smith. Pour moi, c'était la vérité, puisque l'Église est présentée comme ça. Et puis, quand on s'engage, on est de bonne foi. Donc, on fait une découverte. Je n'étais pas croyant, je fais une découverte. Je reçois la parole de Dieu, ça me parle, voilà. Bien. Alors, on avance. Et puis, comment peut-il y avoir rupture? Parce qu'à un moment donné, il y a eu rupture. Alors, Bernard François, il avait de plus en plus de problèmes. C'était pas un bon mormon, en fait. Il était un peu critique, et il y a des choses qu'il n'admettait pas. J'entendais bien ce qu'il disait. C'est un homme érudit aussi, il parlait de beaucoup de choses. Il était assez ouvert. Il avait en particulier une difficulté à payer la dîme, parce qu'il avait des revenus modestes, il était modeste, il avait sa famille à assumer. Donc il commençait à critiquer tout ça un peu. Enfin, il y avait une logique chez lui. Donc j'entendais tout ça. Et puis, Il s'est trouvé que je côtoyais particulièrement Bernard François, parce que dans l'organisation de l'Église mormone, on fait des visites au foyer, on visite les familles. Vous savez, il y a un enseignement dans la semaine, on le transmet dans les familles. C'est une sorte de... Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu... C'est marrant, j'ai pensé à ça. On voit si dans la famille, est-ce que vous vivez bien les commandements, comment vous comportez, vous voyez, on était des visiteurs au foyer comme ça, vous voyez, ça fait un petit contrôle.
Supervision.
Tout en les aidant, c'est pour les aider, mais quand même, vous voyez un peu cette organisation, quoi.
Accompagnateur spirituel.
Oui, c'est ça. Ben, si vous voulez, mais...
Les familles que c'était vous disiez, c'est des familles mormones.
Ah oui, absolument.
D'accord.
Hein, c'est ça. Pour être, on est missionnaire, on fait des démarches missionnaires. C'est, il y a le prosélytisme chez les mormons, ouais. Un peu. Mais les mormons sont bien vus, parce qu'il y a tout un aspect...
Ils sont propres.
Les jeunes, c'est vrai, costumés, cravates, chemises, voyez-vous. Donc on présente bien. Ils sont courtois, tout ça.
Bon, il y a tout un aspect. Ils sont toujours en jupe, j'ai remarqué ça.
Oui, c'est possible. Oui, il y a toute une présentation comme ça qui est... Puis quand même, c'est beau des jeunes qui donnent une année de leur vie pour aller, voilà, porter la parole, être missionnaire. C'est vrai que c'est pas rien. Bon, alors il y a tout ça. Bon, on est enthousiaste dans tout ça, devant tout ça, plus ou moins, quoi. Alors, il se trouvait que Bernard commençait un peu un mormon dissident, quoi. Et moi, on me confiait un peu de le ramener dans le bon rang. Alors, c'est lui qui m'enseignait, hein, parce que, voilà, il y a toute cette histoire-là. Alors, je me rappelle, un soir, j'étais allé chez lui en particulier, et il commençait vraiment... Il était honnête, en fait. Hein, il n'a pas quitté les Mormons du jour au lendemain comme ça. Il a fait son chemin. Il était secrétaire, c'était une belle mission. Et, en fait, lui... Alors, d'abord, ce qui était touchant chez Bernard, c'est qu'il avait des questions. Il a voulu démontrer la véracité des Mormons. Parce qu'il était engagé quand même, les mormons ont montré que c'était vrai. Alors il a étudié. Plus il a étudié, plus ça a montré que c'était une falsification, quoi. Alors il a commencé par l'Isaïe, puis après il a commencé la perte des grands prix aussi, il a étudié. Il a été de falsification en falsification, quoi. Alors c'était pas possible. C'est pour ça qu'il a étudié à fond. C'est un homme de culture, c'est un homme de recherche, un homme qui a besoin de savoir. C'est important, sa démarche, quoi. Vraiment, c'est important, quoi. Parce qu'il a voulu vraiment que c'était vrai, ben, il s'est aperçu. Il a fallu qu'il étudie tout. Alors, c'est vraiment détaillé.
Il a appris l'hébreu,
absolument,
l'égyptien,
ouais.
Ouais.
Il a appris l'hébreu.
Oui. Ah oui, il connaissait l'hébreu.
Oui, puisque...
Et il connaissait la lecture des hiéroglyphes. Ah oui, mais c'est ça.
Il a appris tout lui-même.
Ah oui, absolument. C'est un autodidacte et un homme.
Ouais. Ses commentaires sont en anglais?
Oui, par rapport au livre, tout ça, c'est en anglais. Ouais. Ah oui, c'est énorme. Enfin, c'est important quand même. Hein.
C'est une sacrée vitesse.
Ah oui, puis c'est un homme vraiment, comment dire, scrupuleux et tout, quoi, vraiment. Alors, pour dire, un soir, j'étais allé chez lui, puis j'ai terminé un peu, parce que pour montrer la rupture, et je vois, il y avait un prêtre catholique à la maison. Bon, j'étais un peu surpris, on est mormons, on reçoit les catholiques. Bon, j'étais un peu choqué, j'ai dit, bon. Et quand il m'a accompagné sur le pas de la porte, il m'a dit, Jean-Luc, n'aie pas peur de la vérité. Ça me rappelle toujours, hein. Parce qu'en fait, c'est important. C'est bien une question de vérité, en fait. Hein. C'est fondamental, ça, quand même. Hein. C'est une question de vérité. Parce qu'on s'aperçoit que dans ces sectes, il y a effectivement, comme vous disiez, Père, il y a la Bible, puis à côté, il y a l'autre, et le plus, quoi. Puis voilà, il y a toute cette falsification, quoi. Puis l'histoire, après, moi, j'ai découvert plein de choses grâce à lui. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est que les francs-maçons, c'est mêlé. Ça commence à me poser beaucoup de questions. Puis je crois, en fait, ce qui a été radical, où il y a une coupure, pour moi, personnellement. Et je dirais que Bernard était sur mon chemin qui a fait que, grâce à Dieu, j'ai quitté les mondes. Il était sur mon chemin, c'est vrai. Et en même temps, comment dire, chez les mondes, il y a on appliquait enfin une morale, quoi. Une belle morale. Mais la spiritualité, c'est pas qu'une morale. C'est pas sûrement pas que ça, quoi. Alors, il y avait un décalage entre l'enseignement des représentants de l'Église, de cette secte, la morale, si vous obéissez au clément, vous obtiendrez, vous voyez, comme récompense, quoi. Hein. Et quand j'ai découvert l'Évangile en particulier, bah c'est le cœur de l'Évangile, hein, Jean 4, Dieu est amour, et il n'y avait pas toute cette spiritualité, donc quand on parle de l'amour de Dieu dans les, je sais pas, dans l'Église, hein, cet amour à travers Thérèse et tout, bah voilà, là, il y a eu une rupture. Là, je sentais que la lecture de la parole de Dieu, c'est l'amour, c'est pas la morale, quoi. Alors, il y a eu rupture et j'ai fini. Merci à Dieu, par quitter les Mormons. Alors je disais quand même, rentrer dans une secte, oui. Parce qu'en fait, on dit que ce n'est pas une secte dangereuse. Je dirais si, enfin, disons, on ne risque pas sa vie, hein, mais c'est un enfermement. C'est un enfermement. Parce qu'on est quand même dans une communauté, on est coupé. C'est pas large, hein, c'est un enfermement. Donc je dirais que c'est ça le danger. Et puis, comment quitter déjà, le quitter, puis aller où quand on quitte? Parce que quand on rentre dans une secte, on est de bonne foi, où aller si on quitte? Alors moi, il y avait le chemin qui était tout éclairé parce que j'avais parcouru. Je suis allé dans l'église catholique, quoi. C'était mon chemin. Et puis je dirais ça. J'avais où aller, en fait. Bon, maintenant, je suis dans l'église. J'étais baptisé avant, je suis catholique. Et puis, ce qui me fait penser à l'esprit, quand même, c'est quand on c'est très compliqué. La quête spirituelle est compliquée pour celui qui cherche. Et je pense à ce que vous disiez, vous savez, une fois, j'étais aux 24 heures du livre, là, la 25 heures. Et c'est étonnant, comme je vois. Vous savez, il y a tous les stands, il y avait les... il y a toutes les sectes qui sont là, plus ou moins. Il y avait les Réliens, d'ailleurs. Il y avait pas loin... enfin, et c'est là que j'ai rencontré Jacques Le Breton. Il avait un stand. Mmh. Ouais, et je ne le connaissais pas. Il était au milieu de tout ça.
Celui qui est aveugle,
là. Oui.
Ah, vous connaissez Jacques Le Breton?
Non.
C'est quelqu'un qui s'est fait sauter une grenade. Il a fait la guerre d'Algérie, et puis...
Il s'est sauté une grenade dans les mains.
En rangeant des grenades.
Il est aveugle.
Donc il a perdu ses mains et ses yeux.
Il a une conversion, la foi, dans un lit d'hôpital.
Sur lit d'hôpital, il s'est converti.
Oui, absolument.
Cet homme avait une puissance de témoignage effarante. Une fois, j'ai organisé une semaine dans la Sarthe, dans des collèges, etc. Quand il passait dans une classe, il commençait par dire je peux vous dire que c'est pire d'être amputé de Dieu que d'être amputé de sa mère. Ça, c'était un froid.
Je dis ça parce que, voyez-vous, parmi toutes ces ténèbres qui sont présentes, il y avait lui qui était là et je ne le connaissais pas. Et bon, on a parlé, on a échangé, voilà. Alors, je voulais dire ça, et puis maintenant, donc, je suis plus un peu... puisque je fais partie de l'association Les Amis de Lourdes, pour dire que je suis Marie, pour, voyez-vous, il faut prendre de l'assurance. C'est tellement flou, toutes ces spiritualités, ces sectes, dans tous les sens, tout ce qu'on peut entendre, c'est tellement confus. Il y a une confusion.
Tu avais été rebaptisé, Mormon ?
Oui, j'étais rebaptisé, Mormon.
Et quand vous avez quitté les Mormons, ça s'est passé comment ?
Ah non, ils m'ont laissé libre.
Ah oui.
Bon, ça les a choqués, mais pas moi. Oui. Mais c'est vrai. Oui, évidemment. Mais même quand j'ai parlé que je quittais, je me rappelle avant, je commençais par être dissident, moi aussi, forcément. Et ça ne s'est pas fait comme ça d'un seul coup, du jour au lendemain, la rupture, mais ça commençait à travailler. Et je me rappelle, un représentant, ça l'embêtait que je parte, bien sûr. Enfin, bon, c'est tout. C'est vrai, parce que il y a des questions aussi, parce qu'on lit des amitiés, il y a des liens affectifs, tout ça, c'est compliqué. On ne quitte pas des amis comme ça du jour au lendemain. C'est vrai, il y avait des belles relations humaines.
Tout est mélangé constamment. Ouais. Livret bon grain sans cesse.
C'est ça.
Une doctrine tordue, mais il y a quand même la Bible, il y a des liens.
Ça ne les a pas intrigués, vos amis mormons, ils auraient pu se poser des questions, et du coup vous posez des questions. Et aussi.
Non, pas vraiment. Maintenant, bon, je
vais dire. Ça aurait pu faire un bout de neige, quoi.
Que je parte? Ah oui.
Oui, en fait, mais c'est vrai, moi. Attends,
parce que Bernard François était là. Si moi je l'ai entendu. D'autres avaient l'occasion aussi de l'entendre, voyez-vous, parce que lui, c'était pas une personne, je pense. Hein. Bon, moi, ça m'a touché, parce que, bon, je l'ai entendu, quoi. J'ai reçu ce qu'il voulait dire, les échanges que j'avais.
Oui, c'est ça, s'il avait été là, tu n'aurais pas pu sortir.
Ben oui, comme ça. Oui.
Et il y avait le témoignage.
Oui, c'est ça. Je trouve ça, c'est important, quoi. Et en fait, si cette œuvre est revenue, là, que j'ai remis, c'est lui qui l'a écrit, c'est par Jean-Emmanuel que j'ai reçu cette œuvre-là. C'est parce que j'ai entendu récemment, sur RCF, il parlait des Mormons, et il ne les décrivait pas comme une secte. Voyez-vous ? Et ça, c'est un mariage. Je dis, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, voyez-vous ? Comme on le dit, là.
Sur RCF, ils ont dit ça.
Oui. C'était présenté, on parlait des Mormons, et c'était pas présenté comme une secte.
C'est courant, malheureusement.
Et voyez-vous, ça, j'aurais pu ne pas l'entendre. Et c'est ça qui m'a fait revenir sur ça.
Sur la Sarthe, ils sont pas nombreux.
Ah non, pas nombreux, non, non. Ah. Ils sont eu d'Isaac par là, quoi.
Combien?
Non, je dis pas ça, mais je sais pas combien ils seraient. Je sais pas. Vous savez, ils avaient acheté un beau terrain. Ils ont construit... Et puis, ils ont vendu une partie du pain, parce que comme ils ne s'étendent pas, ils ont vendu une partie du pain pour récupérer de l'argent, parce que ça ne s'étend pas, quoi.
Je sais pas combien. Oui, ça n'a pas le même rayonnement que les témoins de Jéhovah.
Oui, c'est vrai.
Hein, témoins de Jéhovah, quand même. Là, je dois encore me rendre au mois de mars. On m'a demandé de faire un exposé sur les témoins de Jéhovah pour la réunion des aumôniers de prison d'une vaste partie de la France. Parce que justement, en prison, les témoins de Jéhovah ont réussi à rentrer. Et comme ils sont église officielle, avoir des aumôniers maintenant. Et donc, ça pose.
Au Mans, je sais.
Dans la zone nord, là, qu'est-ce que c'est? C'est quoi?
Il y a une église, là, par là?
Église, un lieu de culte, je ne sais pas.
Où ça?
Comment s'appelle cette rue?
Avenue Rhin et Danube?
Non, dans la zone industrielle.
Chez
en face de chez M. Demey.
Ah oui.
La zone commerciale ici, non?
La zone nord.
Non, quand on descend la rue du coup de pied, vous passez le passage à niveau.
Oui.
Vous allez au rond-point, vous prenez la première à droite.
Ah, je crois qu'il y a une salle témoin de Jéhovah par là.
Et c'est juste Jéhovah, dans le coude, là, le long de la ligne de chemin de fer.
Ah bon, ouais.
Je crois que c'est une salle témoin de Jéhovah, je crois justement. Je crois qu'il y en a une.
Mais les témoins de Jéhovah sont plus.
C'est les témoins de Jéhovah, je pense qu'une dizaine.
Nous, les Mormons,
ils sont nombreux. Dans
toutes les villes de France, les grandes villes, à Tours, ils sont présents, à Poitiers, j'y allais. Le Roman, je ne sais pas combien ils sont, 50 ou 100, j'en sais pas. C'est des familles en fait entières, quoi. Ouais.
Toute la famille.
Ah oui, en général c'est des familles.
Ouais. Est-ce qu'il y avait quand même moins d'enfermement que chez les témoins de Jéhovah? Parce que c'est vrai, quand on avait vu les témoins de Jéhovah, vous disiez que quasiment tous les soirs de la semaine ils avaient des lectures de textes, etc., de sorte qu'ils n'avaient plus le temps pour faire autre chose, voir d'autres amis, faire des loisirs. Est-ce que c'est le cas aussi chez les Mormons, des réunions très fréquentes, des enseignements?
Peut-être pas aussi fréquentes, mais quand même, tout ce qui se passe c'est des bénévoles. Hein. Il y a pas de... Donc il faut être actif, quoi. On est assez pris en fait, c'est vrai, mais peut-être pas autant, je sais pas, mais quand même c'est un peu le même système, quoi. Ça semble moins sectaire quand on pense aux croyances des témoins de Jéhovah. On pense toujours aux 144 000 qui sont sauvés, ou je sais pas, il y a des points comme ça.
C'est quand même très délirant,
hein. Oui, mais c'est des aspects que nous avons lus là, moi je les connaissais pas, hein.
Ah non.
Mais c'est ça.
Il y a
des niveaux.
Oui.
Quand il délire sur Dieu avait deux fils, Jésus et Lucifer, etc., on est dans les questions de... Si Bertrand, il n'a pas pu venir ce soir, s'il était là, il rebondirait sur la question de du mélange entre bien et mal, la quatrième voie, Gurdjieff, etc. C'est toujours le même refrain.
Je ne sais pas si les Mormons savent que c'est d'origine franc-maçonne. J'en sais rien.
Oh non, bien sûr que non.
Comme les témoins de Jéhovah. Il y a des choses qu'on découvre qu'après.
Quand on leur dit aux témoins de Jéhovah, ils disent que c'est parce qu'en fait il avait fait une erreur après, mais il s'est repenti et tout. Quand on leur dit ça, ils arrivent à rebondir en fait.
Il faut avertir sur le phénomène des sectes, surtout aujourd'hui, enfin toujours de toute façon. Parce que c'est des. Moi j'ai été piégé, bon. Bernard François, étonnant. Ouais, comment voyez-vous?
Est-ce que d'après les Mormons, les chrétiens vont au paradis? Parce que ça, vous disiez que ceux qui obéissent à l'évangile vont au paradis et non pas à la prison des esprits. Alors du coup, les chrétiens et les Mormons partagent l'évangile finalement. Est-ce que d'après les Mormons, les chrétiens vont au paradis?
Alors moi, je ne sais pas si c'est leur question. En tous les cas, nous, on est dans l'erreur. Les catholiques sont dans l'erreur. Et je suis allé au temple aussi. Et par contre, ils attaquent la Trinité, la notion de Trinité.
Ils attaquent.
Ah oui, c'était assez attaqué. La notion de la Trinité, de la Sainte Trinité, dans les temples.
De toute façon, quand on est dans un groupe circonscrit comme celui-là, il faut forcément être boosté pour tenir. Adossé sur tout le reste est faux. C'est nous qui avons la vérité, qui avons le vrai salut, la vraie lumière. Tous les autres sont dans l'erreur.
Ils
fonctionnent en mode binaire.
C'est ça.
Et adossé sur. Obligatoirement. Donc, ils ne se posent pas la question de savoir si on. Pour eux, on est dans l'erreur. Ou du moins, eux, ils ont l'illumination ultime, quoi. C'est ça. Donc,
Et la question que vous disiez, c'est savoir si pour nous, les chrétiens catholiques, on serait sauvés. Je ne sais même pas si se pose vraiment la question. En tous les cas, on est dans l'erreur. C'est sûr. Mmh.